Pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Bienvenue dans Page après page, je rencontre aujourd'hui pour la première fois Hélène Besse qui est diplômée en lettres modernes, enseignante et pour notre joie, aujourd'hui c'est l'auteur que nous rencontrons en elle, l'auteur comingeoise d'adoption, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous nous avez choisi cette musique que nous venons d'entendre, c'est particulier?
J'ai choisi Gaïa, donc c'est interprété par Onag, hein, qui est une interprète allemande. J'ai découvert cette musique totalement par hasard lors d'une session d'écriture, puisque quand j'écris, j'écris toujours en musique. J'étais sur YouTube, ma playlist était finie, et YouTube m'a proposé cette musique, et en fait, elle collait tout à fait avec le thème du roman, puisque le roman parle du coup du rapport entre l'homme et la nature. Et la chanson Gaïa est clairement une ode à la planète et une ode à notre Terre. Et ça collait vraiment parfaitement au thème du roman. Et finalement, j'ai écrit quasiment la moitié du roman avec ces chansons-là en tête.
Ah oui, et
Voilà.
on peut comprendre parce que c'est très agréable. Qu'est-ce qui a fait chez vous cette imagination si fertile? Parce que il en faut pour écrire comme vous l'avez fait et comme vous le faites.
Alors, je pense que c'est vraiment d'abord mes lectures. Alors, des lectures au début d'enfant, hein, avec mes parents qui lisaient des contes ou des histoires. Puis après, j'ai appris à lire toute seule et j'avoue, je lisais beaucoup. Alors, au début, j'étais un petit peu frustrée parce que la littérature jeunesse, alors à mon époque, j'ai l'impression que je suis très vieille quand je dis ça, mais à mon époque, en tout cas, la littérature jeunesse, ou en tout cas, l'imaginaire n'était pas très développé. À part le Club des Cinq ou les Bibliothèques Roses, c'était pas non plus hyper développé en France. Et en fait, moi, j'ai connu la littérature de l'imaginaire grâce à la saga Harry Potter, qu'une amie anglaise me lisait, puisque ça n'existait pas en France. Puis ça a été traduit, et ça, j'avoue que J.K. Rowling a ouvert une porte à la littérature de l'imaginaire jeunesse, dans lequel je me suis engouffrée gentiment dès que la porte a été grande ouverte. Et donc vraiment, l'imagination, ça vient des lectures, vraiment, vraiment. Et puis après, petit à petit, le stylo est venu dans la main. Et puis au début, c'était des histoires d'enfants. Et petit à petit,
Oui.
ça a construit des romans.
Est-ce que vous avez toujours eu cette faculté de rêver éveillé? Parce que quand on lit ce livre, on dirait un rêve éveillé.
Oui, ça, j'ai toujours su faire. Alors, ça m'a porté un peu préjudice pendant mes années collège, hein, je l'avoue. Il faut pas rêver en classe, hein, mais hélas, j'avais un peu tendance à faire ça. Donc, j'avais des petites techniques pour pas trop me faire rattraper. C'est-à-dire, j'écrivais le cours assez rapidement et comme ça me laissait du temps pour rêvasser tranquille, les yeux ouverts. Et ça, j'ai toujours su faire. Alors, je sais pas d'où ça me vient, par contre, de
Oui.
réussir en effet à imaginer plein de choses alors que je suis parfaitement éveillée.
Mais je pense que ça vient aussi de la lecture, puisque la lecture, demande de l'imagination, plus qu'un film.
Disons que dans le film, tout est donné.
Oui.
C'est-à-dire, on le voit bien. Il y a des études qui ont été faites, hein, sur le cerveau, sur nous en train de regarder un film et nous en train de lire. Nous en train de regarder un film, c'est clairement, on est passif, hein, tout est donné, on n'a besoin de rien.
Oui.
Et c'est aussi très agréable, hein, parfois, je ne
Oui.
dis pas. Et par contre, la lecture, oui, nous oblige. Le cerveau doit imaginer les personnages, doit imaginer les lieux.
Oui.
Forcément, l'imagination se fertilise grâce à la lecture.
C'est vrai, c'est vrai. J'ai été un petit peu attrapée parce que dès la première ligne, on est happé par cette forêt. Est-ce que vous écrivez par tableau pour ne pas vous perdre ou est-ce que vous faites peut-être un cadre avec des cases pour vous guider?
Disons que le travail d'écriture, au début, j'écrivais ce que j'appelle au fil de la page, c'est-à-dire j'écrivais comme ça sans
Oui.
vraiment préparer. Maintenant, au fur et à mesure, hein, quand même de. Alors, je ne vais pas parler d'expérience, il ne faut pas exagérer, mais au fur et à mesure de
Quand
mes
même.
écrits, maintenant, j'ai toute une technique. Hein, je pars du personnage, toujours. C'est lui que j'invente en premier.
Oui.
Je lui invente une vie, un passé, un futur, des défauts, beaucoup de défauts, des qualités, etc., etc., des choses qu'il aime, s'il aime le chocolat, s'il... vraiment, hein, je pars vraiment dans les tout petits détails. Je fais ça pour tous mes personnages. Et après seulement, je fais la trame de leur histoire. Et en fait, chaque personnage est développé selon son point de vue de l'histoire. Et après, quand je commence mes premières scènes, en effet, ce que vous disiez, j'ai un tableau dans ma tête et j'essaie de que mes mots ressemblent le plus possible à ce que je vois moi dans ma tête.
D'accord. Dans l'imagination, travaille aussi
Ah
pour
oui.
l'auteur. Quand vous fabriquez vos personnages, quand vous fabriquez leur vie, est-ce que vous vous imprégnez d'abord de son personnage que vous voulez qu'il soit, ou est-ce que à mesure que vous écrivez, vous lui dites, hop, stop, là, on va le faire un peu plus de ce côté, un peu plus comme ça.
Ah oui, au début, on n'a qu'une idée très vague. Au début, ça part d'un prénom ou ça part moi pour mon personnage principal, pour Titania. C'est parti d'une maison. On est parti en randonnée en Ariège. Enfin, j'ai vu cette maison au loin. Je me suis dit, ah oh là, Lyon, cette maison, elle pourrait vraiment donner bien dans un roman. Donc, c'est parti de cette demeure-là. Je me suis dit, j'imagine bien quelqu'un vivre là, mais toute seule. Il faut qu'elle soit toute seule. Il faut que ça soit une femme. Et puis après, c'était parti. Ah oh tiens, je vais l'appeler Titania parce que j'aime beaucoup la pièce de théâtre Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, hein,
Oui.
où vous avez Titania, c'est le personnage principal. Je me suis dit, ah oh tiens, je vais l'appeler Titania. C'est parti de là. Et après, par contre, elle s'est fait en fait un peu comme quand on tricote. Au début, c'est juste une pelote, et puis petit à petit, ça prend forme. Je lui donnais des qualités, des défauts, Et parfois, au fur et à mesure des écrits, au fur et à mesure que j'écrivais les scènes, eh ben, je lui ai inventé parfois des défauts que je n'avais pas prévus au début. Les fiches personnages que je crée au début, en fait, sont malléables, hein. Il y a des fois, il y a même des personnages qui disparaissent. C'est-à-dire, je les ai inventés au début, ils devaient être là, puis finalement, ils n'apportent rien, donc pouf, ils disparaissent
D'accord.
complètement.
D'accord. Surtout que là, ça, c'est facile de les faire disparaître.
Assez facile, oui.
Vous nous amenez dans un monde enchanteur ou sorcière selon qui leur parle. Ça dépend, voilà. Ou elles sont sorcières ou elles sont bonnes fées. Vous croyez à un monde parallèle?
Absolument pas. Par contre,
D'accord.
non, pas du tout. Je crois. J'ai beaucoup d'imagination, il n'y a pas de
Oui.
souci. Alors après, dès qu'il y a un scientifique qui me prouve qu'il y a des mondes parallèles, il n'y a pas de souci. Mais oui, non, non, j'en suis pas à ce stade à penser à un monde parallèle. Par contre, je me suis beaucoup, de par mes études, intéressée au monde médiéval. Et clairement, la fantaisie, hein, s'appuie sur un monde médiéval, hein, se nourrit d'un monde médiéval où les sorcières étaient très mal vues,
Ah
où
oui.
il suffisait d'un moindre détail pour qu'on soit sorcière, n'importe quoi. On avait les cheveux roux, oh, c'était la couleur du diable, bim, on était sorcière. On essaie un jour de pleine lune, machin, bim, on était sorcière. Enfin voilà,
Oui.
c'était voilà. Et en fait, avec ce personnage de Titania, je réinvente pas la sorcière parce que techniquement, alors elle est vraiment. En plus, elle est pas sorcière telle qu'on l'entend, pas du tout, du tout. Elle fait pas de potions, il n'y a pas
Oui.
de baguette magique, rien à voir. Mais elle est perçue comme ça par les autres qui ne comprennent pas, en fait, qui ne comprennent
Oui.
pas trop sa mission, qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas la différence, ce qui était beaucoup le cas au Moyen-Âge
Tout à fait.
pour ces certaines jeunes femmes.
Est-ce que vous avez été aussi imprégné par les contes d'enfants parce que vous nous y avez mis un chaboté?
Oui, toc. Pour les contes, oui, évidemment, les contes d'enfants ont marqué forcément ma petite enfance, donc on y retrouve un petit peu. Après, Puck, c'était un petit peu l'animal qui apportait parfois un peu de légèreté parce que la situation est assez tendue
Oui, c'est vrai.
tout le long du roman. Et Puck amène un peu de cynisme dans cette bataille, ce regard un peu de chat. Alors, parfois, je me dis quand je regarde mes chats, je me dis, si vous pouviez parler, je suis sûre que vous seriez très cynique avec cette espèce de petit. Il n'est pas hautain, mais de temps en temps, il dit, mais pourquoi tu te prends la tête
Oui.
pour ça, en fait? Il faut peut-être juste rien faire
Oui,
et
oui.
laisser faire les choses. Je voulais aussi un personnage qui amène un petit peu sa touche de légèreté parce que je savais que les thèmes étaient, comment dire, un peu difficiles et que les situations des personnages également.
Oui. Et comment vous choisissez les noms de vos personnages?
Alors pour Titania et Puck, clairement, j'ai pris dans le Songe d'Humidité de Shakespeare.
Oui.
Pour les autres, c'est des recherches. Il existe maintenant des créateurs de noms sur Internet, selon ce qu'on écrit.
D'accord.
Donc je m'appuie aussi sur ça. Et parfois, ça vient, de mes recherches.
Nous allons ouvrir votre ouvrage, Les émissaires du lien, paru en octobre 2022. Chez Incipio Éditions. Et ça ne va pas être facile parce que, à la fois, il faut en parler, mais à la fois, il faut taire pour laisser à l'auditeur le choix d'acheter ce livre et de le lire parce que c'est un conseil que je leur donne. Parce que, franchement, c'est vrai que quand on le commence, on n'a pas envie d'arrêter. On est happé vraiment par cette première phrase que vous avez mise. Est-ce que c'est. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Un choc de deux mondes, de trois mondes même, je dirais. Parce qu'il y a le monde des sorciers ou de la bonne fée, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Quatre mondes, vous nous avez mis dans un seul livre. C'est le choc de tout ça. C'est ça qui vous a attiré dans ce livre-là?
C'est plus des réflexions sur notre monde à nous. Je trouve qu'il y a un déséquilibre assez fort entre ce que j'appelle l'espèce dominante, c'est-à-dire les humains, hein, qui
Oui,
sont quand
oui.
même. On est 8 milliards, je crois, maintenant, hein, depuis peu. On est omniprésents, un petit peu partout. Et je trouve qu'on empiète et qu'on piétine joyeusement, hélas, le reste des espèces, dont certaines ont disparu complètement. Certaines, pour être protégées, on est obligé quand même de les mettre dans des zoos. On peut s'interroger quand même. Et ce déséquilibre me fait un petit peu grincer des dents, hein. Clairement, après, avec tout ce qui peut être, tout ce qu'on voit, hein, chaque année, les abandons, les maltraitances, etc., où je trouve que nous sommes espèce dominante, mais qu'on ne prend pas soin des autres, alors qu'on pourrait le faire. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si. La situation était inversée, c'est-à-dire nous en espèce dominée et le monde végétal et animal vraiment qui reprenait des droits et qui disait ben stop, on ouais. arrête tout, on vous remet à une place de dominé puisque quand même au niveau de la nature on est quand même on n'est pas bien assorti, c'est-à-dire ben, on n'a pas de poils, on est obligé de se construire des maisons pour être au chaud, etc. Et bon, on n'est pas très bien fait pour vivre dans la nature comme ça, sans rien, sans aide, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, et si la situation était renversée, comment on vivrait ça? J'ai ancré quand même mon histoire dans de la fantaisie parce que c'est vraiment le genre que j'aime beaucoup et que je lis beaucoup. J'ai imaginé comment les humains réagiraient face à cette prédominance animale
oui.
et végétale.
Ça, je l'ai bien compris aussi. Mais c'est vrai que quand on a fini cette lecture, on se dit, mais c'est un choc de monde, quoi. Un choc d'espèce, un choc de monde, un choc de vie. C'est bien fait, c'est bien tricoté. Vous parlez de césure et de réveil de ces mondes dont il y a la césure de l'humain et le réveil de l'animal et du végétal. Parce que vous en parlez sans jamais l'expliquer. Qu'est-ce qui a causé, justement, c'est ce que vous venez d'expliquer, peut-être le monde végétal qui a dit stop, on remet tout en place?
En fait, j'ai imaginé, puisque dans la plupart des mythologies, et surtout dans la mythologie celte, on retrouve des dieux assez puissants qui maîtrisent la nature, pas qui la dominent, mais en tout cas qui font en sorte que tout se passe bien. Dans cette histoire, j'ai imaginé si ces dieux-là se réveillaient, comme s'ils étaient endormis, s'ils se
D'accord.
réveillaient, qu'ils voyaient ce qui se passait,
Ouais.
bah comment ils réagiraient? Et s'ils remettaient les choses dans l'ordre, comment ça se passerait?
Qui sont Joran et Tibi? Comment voyez-vous vos mercenaires?
Alors, Joran et Tibi, ce sont mes petits aubergistes qui sont dans la cité Angélarat, puisque les
Oui.
humains se cachent en fait dans des cités avec des énormes murailles. Hein, en fait, j'ai voulu vraiment, puisque la situation est difficile, mettre plusieurs points de vue face à la même situation. Donc, on a Titania, elle qui est l'émissaire, hein, qui doit faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Je me suis dit, ça serait sympa de voir aussi des points de vue de gens du commun, donc Tibi et Joran, hein, mes aubergistes, qui essaient de vivoter tant qu'ils peuvent dans cette cité où il y a vraiment trop de monde. Et après, j'ai créé aussi, je me suis dit, les humains, c'est impossible qu'on les mette dans un endroit et qu'ils ne veulent pas bouger. Ils vont vouloir bouger de cité en cité, mais face à une nature prédominante et dangereuse, il leur faut des gardiens. J'ai créé ces mercenaires hein, qui se font payer grassement pour aider, enfin aider, pour oui, pour aider les marchands et ceux qui souhaiteraient aller de cité en cité à s'y rendre sans potentiel danger.
Oui, parce
Voilà.
que eux connaissent la forêt et
Voilà.
sont capables de lire la nature.
Ils sont capables de la lire à moitié quand même. Hein. Ils sont capables de s'en sortir, on va dire
Oui.
ça comme ça. Ce sont des combattants qui sont capables de se défendre. Quoique quand même, l'histoire va leur prouver que, bon,
Oui.
il faut pas être trop sûr de soi non plus.
Tout à fait.
Bah, ils ont l'habitude, en fait. Ils ont l'expérience du terrain et ils savent que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire. Ils essaient de se faire un petit peu d'argent dans cette situation très compliquée.
Tout à fait. Et c'est là que le monde d'aujourd'hui est reflété. Parce que aujourd'hui, c'est ça, quoi. La moindre fissure où il y a un centime à gagner, on fonce.
C'est ça.
Dame Titiana donc parle avec le chat. Est-ce que c'est aussi son pouvoir qui lui permet de parler avec? Est-ce que c'est aussi ce chat qui n'est pas ordinaire? Est-ce qu'il n'est pas un dieu des fois?
Alors, il n'est pas un dieu. J'en ai pas fait un dieu, mais j'en ai fait
Oui.
en effet une représentation de ce nouvel ordre, monde végétal et monde animal. Et en effet, c'est son pouvoir qui lui permet de lui parler, mais pas que, puisque quand elle va recueillir un messager Izienne, hein, qui est un humain, il va l'entendre également parler. Donc en fait, c'est Puck qui choisit de se faire comprendre ou pas, selon la situation, selon. Voilà. Après, il suit Titania parce que c'est bah, comme. Un animal, j'ai pas de compagnie, mais quasiment. Et il va essayer un petit peu parfois de la remettre un petit peu dans sa position d'émissaire. Et parfois même, il va lui dire, même hein, parfois, de laisser tomber, voilà, de survivre en fait, malgré tout.
La cité d'Angélarad, elle est régie par un vieux roi. Il est malade d'ailleurs. Mais son défaut, c'est que peut-être à cause de sa maladie, il n'écoute plus les sages de la cité. Et il n'écoute plus non plus Titiana, qui veut absolument refaire cet équilibre. Pourtant, il sait que les dieux veillent au grain. Et à bien y regarder, dans la vraie vie, c'est semblable aussi à ce que vous avez écrit dans ce livre. Est-ce que vous y avez pensé en écrivant ou pas? Est-ce que vous avez fait une similitude entre le monde que vous avez inventé et le monde où nous vivons?
Oui. Après, ce n'était pas forcément tout le temps dans mon esprit quand j'écrivais. Hein, d'accord?
Oui, ça
mais
c'est
en
bien.
effet, ça a fait écho, un peu malgré moi, parfois. Après, sur le duc Turian, hein, son souci, bah, c'est un vieux duc qui a récupéré quand même ce royaume en ruine, hein, et qui va absolument maintenir ce que son grand-père, ce que son père a fait avec cette histoire d'héritage. C'est important, l'héritage. Il faut le... voilà, et pour lui, c'est très important de le conserver. C'est très important de faire survivre cette cité. Et en plus, la maladie se met là-dedans avec, en fait, cette peur de mourir, et d'avoir échoué dans cet héritage. Finalement, même si ses actions, parfois, on peut les juger sévèrement en tant que lecteur, finalement, il n'est pas condamnable parce que cette peur de mourir, ben, je pense que c'est très humain. Et c'est cette peur d'avoir échoué aussi. Donc finalement, c'est juste un humain qui a pas envie d'échouer et qui n'a ben, pas envie de mourir, hein, tout simplement.
Oui. Vous n'avez mis que 60 ans entre le fait que les dieux se sont réveillés et ce monde. C'est pas beaucoup, 60 ans.
C'est suffisant pour que ça soit le bazar. Oui, parce que je voulais, si on était trop éloigné, j'avais peur qu'on oublie les raisons, ou alors que carrément la situation soit tellement catastrophique et quasiment plus d'humains. Et je voulais vraiment des humains qui aient encore le goût de... ben, on aimerait bien revenir à ce qui était avant, en fait, avec ce souvenir de ce qui était avant. Et pour qu'il y ait le souvenir de ce qui était avant, il fallait qu'il y ait des gens
Oui.
encore vivants qui aient vécu au moment où le monde végétal a pris le
Oui,
devant.
oui, oui. Je l'avais bien compris comme ça aussi, mais voilà, je voulais en être certaine. Mérine, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le
C'est ça,
dire,
tout à fait.
est également une femme puissante et on comprend après les dédales de ces gens, de ces fées puissantes. Son mari Iwin sait qu'elle est puissante. Mais il fait tout pour la protéger parce qu'ils s'aiment vraiment beaucoup. Dans leur cité, puisque là on n'est plus à Angélarad, hein,
Tout à fait.
dans leur cité, le roi là est un tyran.
C'est ça.
Il fait régner la terreur. Qui est donc ce roi Hogan? Sans trop dire, moi je dis rien. Hein.
Hogan, après, je ne l'ai pas beaucoup développé parce que c'est un tyran comme on aurait pu en rencontrer à n'importe quelle époque. C'est un roi tout-puissant qui est persuadé que ses pouvoirs lui viennent de Dieu. Et qui a décidé que de toute manière, toute personne qui serait contre lui, bon, bah, il s'en débarrasse assez rapidement. Et on le suit à travers les yeux de Mérine, donc les yeux d'une femme, hein, qui va être vraiment outrée et choquée par son comportement. Bon, il a un comportement vraiment particulier, que ce soit en politique ou que ce soit avec son épouse. Il est tout puissant, il sait qu'il a le pouvoir, il sait que personne ne viendra le contredire ou ne serait-ce que même attaquer son royaume. Donc c'est quelqu'un, c'est un roi comme il y en a eu tant d'autres et qu'il y en a encore. Alors ce sont plus des rois, hein, mais des tyrans. Je pense que toutes les générations en ont vu passer. Donc là, c'est clairement le personnage du tyran. En tant que lecteur, on lui souhaite qu'il lui arrive des malheurs, quoi.
C'est vrai, quelque part. C'est ce que moi, à un moment même, je pensais que c'est sa femme qui allait prendre le pouvoir sur son mari, mais bon, ça n'est pas arrivé. Moi, je ne veux pas tout dévoiler des liens de ces femmes de pouvoir, ces allers-retours dans le passé, dans le futur. Est-ce que c'est pensé pour aiguiser la lecture ou pas? Parce que ça, on le comprend à la fin.
Voilà. J'aime beaucoup, moi, les lectures où au début, je suis un peu perdue. En tant que lectrice, j'adore ça.
D'accord.
C'est-à-dire, j'aime faire confiance à l'auteur. Tant que j'ai mes réponses à la fin, tout va bien. Et en créant comme ça cette... Et ça, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, au début, il y a plein de points de vue. On était un peu perdus. Et finalement, au bout d'un moment, on comprend que tout ce... qu'on a l'impression au début que c'est plein de fils différents. Mais en fait, c'est la trame de la même histoire et ça donne... la même écharpe, si vous préférez. On
Oui,
reprend
oui, oui.
la métaphore du tricot. Parce que c'est vraiment le type de lecture que j'aime. En fait, j'ai écrit un livre que j'aimerais lire, en fait, tout simplement. Et je crois qu'on est beaucoup d'auteurs à faire ça, à écrire des livres qu'on aimerait lire. Parce qu'en fait, on rencontre des gens ben, qui aiment lire les mêmes choses que nous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, en fait.
Oui. Et moi, j'ai attendu le moment où ces deux femmes de pouvoir allaient se rencontrer. C'est quelque chose que j'ai vraiment attendu jusqu'au bout, d'ailleurs. Hein. Enori, elle est une fée aussi. Est-ce qu'elle est la fée de la forêt ou est-ce qu'elle est une fée tout court?
elle est la porte-parole. C'est-à-dire que comme les dieux ne prennent pas la parole, ils n'apparaissent d'ailleurs pas dans le roman, hein, ce sont des entités dont on parle mais qu'on ne voit pas, comme aujourd'hui dans beaucoup de religions quand même, hein,
oui.
on parle beaucoup des dieux mais on ne les voit pas. Et Norris, c'est un porte-parole, c'est-à-dire c'est elle qui parle au nom de ses anciens dieux, au nom de la forêt, et elle ne s'adresse qu'à Titania, hein, qui est l'émissaire entre les deux espèces. Et alors forcément, elle est parti pris, hein. Clairement, elle est pour le côté forêt, monde végétal.
Oui.
Et elle passe des messages. C'est tout ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire, quand elle a à s'adresser aux anciens dieux, s'adresse à Enori.
Oui. Voilà. Est-ce que tous ces gens qui traversent les forêts, qui meurent dans les forêts parce qu'ils se perdent, est-ce que ce n'est pas aussi plutôt la simple peur qui les fait mourir, qui les fait perdre?
Pas uniquement.
Pas
Pas
uniquement.
uniquement. En
D'accord.
fait, dans cet univers-là, la forêt ayant repris tous ses droits, les humains sont obligés de demander un laissez-passer. À chaque fois qu'ils veulent traverser la forêt, un territoire, il leur faut demander un laissez-passer à la forêt, donc par l'intermédiaire de Titania et des nourris. Et quand ils n'ont pas ce laissez-passer, puisqu'il y en a qui passent sans laissez-passer, la forêt peut choisir en effet de les perdre ou potentiellement de leur envoyer quelques animaux pas sympas.
D'accord. Le rôle de ces fées, c'est aussi de maintenir la paix quelque part, sans prendre parti. C'est un peu ménager la chèvre et le chou, ou pas. Parce que le fait de laisser, de devoir demander ces laissez-passer, le fait que les fées soient toujours là, veillées aux graines, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe.
Normalement, les émissaires, elles ne vont pas punir. C'est-à-dire, c'est pas elles qui,
C'est pas elles qui
c'est pas elles
punissent.
qui punissent. Mais en effet, elles doivent faire en sorte que la situation ne dégénère pas en guerre retranchée. Parce que clairement, et elles le savent, hein, les humains ne sortiront pas forcément vainqueurs de cette guerre retranchée. Donc, elles sont vraiment là pour dire aux humains, bon, il faut respecter les règles parce que sinon, ça va mal se passer. Et en même temps, elle est là aussi pour dire à la forêt, oui, mais bon, il leur faut suffisamment de territoire à ces humains pour pouvoir vivre. Il leur faut de quoi cultiver. Il leur faut de quoi se nourrir. Donc, ils doivent être autorisés à aller chasser de temps en temps pour pouvoir quand même pas mourir de faim. Voilà. Et elle est là, elle, pour régler ce quotidien qui n'est pas si facile que ça, hein, entre des humains qui aimeraient bien retrouver quand même leur dominance et une forêt qui est du coup très sévère.
Oui. C'est un petit peu difficile. Pourquoi le monde végétal et le monde animal également, alors que dans la réalité, chacun a besoin de l'autre?
C'est pas l'impression que ça me donne. Enfin, en tout cas, sur le monde d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression
C'est l'impression qu'on n'a plus,
qu'on
mais
n'a plus du
pourtant on
tout.
en a besoin.
Et oui, mais on a oublié alors. Un petit peu,
Est-ce
quand
que
même.
ce n'est pas par... Là, je vais me faire l'avocat du diable.
Je vous en prie.
Est-ce que ce n'est pas... Parce que justement, il y a ces villes, ces concentrations humaines qui créent ce déséquilibre, justement. Parce que quand on n'a plus les 60 ans, là, je les retrouve aussi dans ce que je dis, si on revient 70 ans en arrière, les villes savaient qu'elles avaient besoin de la campagne et la campagne savait qu'elle avait besoin des villes. Là, la balance, comme vous le décrivez là, la balance, elle a penché du mauvais côté, en fait.
C'est ça. Et c'est vraiment l'impression que ça me donne, c'est-à-dire on en est à vraiment à avoir oublié que au bout d'un moment, si on détruit notre écosystème, ben on se détruit nous en fait. C'est-à-dire que si on scie la branche sur laquelle on est assis, c'est nous qui allons tomber, hein. On sait que la planète, et ça les scientifiques l'ont prouvé, est capable de survivre sans nous, sans aucun problème.
Oui.
Elle se régénérera, même si on lui fait un petit peu de mal quand même, hein. Elle se régénérera avec du temps. Mais elle nous l'a prouvé déjà plusieurs fois
Oui.
qu'elle sait se régénérer. Nous, en revanche, l'écosystème tel qu'il existe maintenant, il est essentiel pour que nous, on survive. C'est-à-dire, on l'a vu cet été, par exemple, avec des chaleurs incroyables qu'on n'avait jamais vues avant. On sait que c'est dû à cause d'un dérèglement climatique, mais ce dérèglement, on va le payer vraiment. Enfin, c'est nous qui allons en souffrir le
Oui,
plus, hein. La planète, elle s'en remettra.
tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. On est à un moment à peu près au milieu de où on a parlé. On va se faire une petite pause musicale parce qu'on a besoin de reprendre notre souffle. Donc, vous nous proposez une chanson allemande, c'est
Tout à
ça?
fait, qui vient donc d'un groupe qui s'appelle Faune, pareil, hein, que j'ai découvert en même temps que Onag, que la première, et pareil, qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné lors de l'écriture de ce roman.
Eh bien, on l'écoute.
Merci.
人看自己 Wir tanzen im Fluge Die Sterne, die ihre Wege ziehen Komm und fliege mit uns fort Lass den Wind dich tragen weit fort von diesem Ort Komm und flieg so hoch du kannst Lass uns die Himmel
Écoutez page après page, si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Hélène Besse, c'est une auteure comminjoise de Terre Basse, et elle nous présente son ouvrage « Les émissaires du lien » paru en octobre 2022 chez Incipio Éditions. Dans ce livre, Hélène, vous mettez la jambe féminine en avant. Très peu de personnages d'hommes, finalement, à part les principaux qui sont vraiment besoin dans ce livre. Trouve à peine grâce à vos yeux. Est-ce qu'ils sont tyrans, bagarreurs, caractériels? Est-ce que c'est comme ça que vous percevez la jambe masculine ou pas?
Non, pas forcément. Mais j'ai vraiment voulu me caler au monde médiéval, qui était un monde assez dur, hein, oui. Vraiment.
Et où les femmes n'avaient pas droit au chapitre.
Où les femmes n'avaient mais vraiment pas le droit au chapitre. Je parle bien du médiéval français, hein, d'accord,
oui.
Je parle pas de...
Oui,
voilà,
oui,
je
oui.
Sais que par exemple... au Japon, il y a eu des femmes samouraïs hein, qui étaient reconnues comme de vraies guerrières. D'accord, là, je parle vraiment, je repars du Moyen-Âge européen. Et en effet, j'ai un peu basculé, c'est-à-dire que là, par contre, on a des femmes qui sont un petit peu plus fortes. Et encore, si on prend la partie de l'histoire de Mérine, on a bien une femme qui est mise, en tout cas, de côté. Et d'ailleurs, Mérine sera mal vue à plusieurs reprises parce qu'elle va outrepasser cette espèce de convenance féminine habituelle. Bon, elle est avec un mari qui, Iwin, qui est un homme très doux et prêt à tout pour protéger son épouse, qui l'écoute, qui vraiment la prend vraiment comme être intelligent à part entière.
Oui.
Mais on retrouve quand même cette espèce de position féminine du Moyen-Âge avec des femmes qui vont essayer de casser un peu ce carcan et qui vont sortir un petit peu du lot.
Oui, c'est ça. Gab, ce jeune garçon m'a fait penser à, on va dire, à la moyenne des ados et des jeunes de maintenant, parce que c'est un jeune qui veut réussir, mais il ne veut pas trop se donner les moyens, il ne veut plus écouter ses parents. En fait, c'est un ado comme on en trouve plein maintenant.
C'est ça.
Pourquoi vous lui avez fait vivre ce qu'il a vécu?
Gab, oui, c'est tout à fait l'adolescent qui a envie de vivre autre chose,
oui.
Qui en a ras-le-bol de son quotidien, qui veut certainement pas suivre les conseils de son père, hein, puisque son père est domestique au château.
Oui.
Lui, domestique au château, non, ça ira bien. Alors qu'il voit arriver dans la ville ses mercenaires qui ont vécu plein d'aventures. Il rêve d'aventure, en fait, Gab, tout simplement. Et à l'intérieur de cette cité d'Anguillera, l'aventure, c'est pas possible. Donc, il décide... De suivre son instinct. Bon, il n'a pas un instinct de fou, hein, c'est un adolescent. Et finalement réaliser son projet, mais à ses risques et périls, puisqu'il vit dans un univers qui est très difficile.
Et
donc
oui.
Forcément, quitter Anguillarad, c'est un choix dangereux. Et il va, hélas, en subir des conséquences terribles,
oui.
Mais qui va un peu le confronter à la réalité de sa société, de son univers.
D'accord. Est-ce que c'est pareil pour Pierre?
Pierre, le pauvre, c'est un peu la même idée, hein, mais c'est deux adolescents qui se retrouvent, en fait, qui avaient le même rêve et qui vont un petit peu être désillusionnés au même, de
oui.
La même manière, en fait,
oui,
en disant, mais mon Dieu, on n'aurait jamais dû partir.
Et, oui.
Et c'est un petit peu, alors sans aller juste à cet extrême-là, attention, hein, Mais oui, c'est quand on est adolescent et qu'on quitte par exemple parfois notre famille, on a parfois un petit peu cette sensation-là quand on se retrouve tout seul face au monde, on se dit oh là là, oh bah finalement j'étais pas si mal chez papa et maman.
Voilà.
On a ce premier sentiment qui passe, hein, qui finit par passer et après on y arrive, hein, on comprend comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment-là quand on est un petit peu lâché dans le monde, on a un petit peu ce sentiment de ouf, ou oh bah dis donc, si j'avais su, je vais peut-être retourner voir un peu de temps en temps papa et maman. Après, ça passe, hein. Mais forcément, là, pour Gab, je voulais un regard adolescent sur cette situation-là.
Oui.
Après, la situation est très difficile, donc forcément, ce qu'il va vivre est difficile.
Oui. Est-ce que les vraies tempêtes, les inondations, les coulées de boue, les volcans que l'on peut retrouver dans nos informations de tous les jours ont alimenté votre imaginaire, ces phénomènes naturels ou historiques qu'on peut lire aussi dans les livres et écouter avec les voix des historiens? Est-ce que tout ça vous inspirait également?
Oui, vraiment, parce que il y a quand même cette idée, enfin, que j'entends dans beaucoup de scientifiques qui disent qu'en effet, c'est cette multiplication des catastrophes naturelles est une manifestation, hein, d'une planète qui va pas très bien. J'ai rentré ces catastrophes naturelles dans ce roman, vu qu'on est quand même sur ce même déséquilibre.
Je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas fait entraider les royautés, parce que oui, il y avait des mercenaires, des marchands qui allaient d'une cité à l'autre, mais jamais il y a eu une entraide entre ces rois. Est-ce que chacun tirait pour sa poire?
Les cités sont trop éloignées en fait. Et Angélarad, elle, c'est la seule cité qui est si proche de la montagne. La montagne, c'est le royaume des dieux. Et c'est elle qui est vraiment la plus proche, puisque ils veulent récupérer dans la montagne une pierre qui est très importante pour la survie de l'humanité, vu que c'est une pierre qui, une fois transformée par des alchimistes, permet de stopper les pouvoirs de la forêt, donc en tout cas de permettre que les humains soient en sécurité. Et Angélarad est vraiment très éloignée en fait des autres cités. Et les autres cités ne peuvent pas lui venir en aide, c'est pas possible, c'est trop loin. Et les autres cités rencontrent les mêmes problèmes. Et elles ont du mal déjà à survivre elles-mêmes. Alors de là à aider une autre cité, c'est pas possible.
D'accord. C'est bien comme ça aussi que je l'avais vu, mais j'ai dit pourquoi il n'y a pas quand même un petit quelque chose. La racine qui commence à démolir Angélarad, est-ce que c'est pour montrer aussi que le végétal peut être plus fort s'il veut, plus fort que nous, plus fort que, oui, que notre monde?
Clairement, c'était pour ça. Je pense que j'ai eu cette idée de racine parce que quand on laisse même un bout de route bétonné et qu'on fait rien pendant quelques mois, à la fin, il reste plus rien. C'est-à-dire que la nature est capable de détruire, alors il faut du temps, mais elle est capable de détruire ce que nous, on a fait. Et finalement, n'importe quel édifice, vous le laissez à l'abandon, au bout d'un moment, vous allez avoir du lierre. Et je crois que c'est même... je crois avoir déjà vu un château abandonné où il y avait un arbre qui avait poussé en plein milieu
Oui, tout à
de
fait.
la salle d'apparat. Et puis un arbre assez immense. Hein, donc c'est cette histoire que la nature, oui, en effet, peut reprendre ses droits si on la laisse faire.
Oui. Donc vous laissez penser que l'animal et le végétal pourraient anéantir l'homme. Vous croyez que ça c'est possible? Vous croyez que par exemple une agglomération comme Toulouse pourrait être anéantie par la nature et les animaux?
Je pense pas. Pas dans le. Pas
Pas
dans l'ordre,
aujourd'hui,
pas
pas
aujourd'hui, pas
demain,
dans
quoi.
l'ordre actuel des choses. La seule chose qui pourra en effet anéantir une cité, ce sont des catastrophes, un tremblement de terre,
Oui.
des choses comme ça. Après, je dirais, les animaux sont pas en assez grand nombre et puis c'est pas du tout dans leur réflexion. C'est pas ça
Oui.
du tout leur truc, hein, eux, c'est survivre, se reproduire, voilà, des choses très 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 simples. C'est techniquement, ils ont rien contre nous en fait. C'est juste qu'on est embêtant parce qu'on est un peu partout, quoi.
Oui.
On mange leur territoire, donc ils font comme ils peuvent. Mais oui, je pense pas que les animaux peuvent détruire, pas du tout. Par contre, une catastrophe naturelle, oui, bien sûr.
D'accord. Et par la catastrophe naturelle, les animaux et la nature pourraient
Reprendre leur
reprendre leurs
territoire.
droits. Dans votre récit, c'est bien l'homme qui a déséquilibré la nature. D'accord. Chapitre 22, vous expliquez qu'à force d'exploiter les gens des bas quartiers, la révolte peut être grande, dure et compacte. Les rois et leurs cours sont-ils capables de voir qu'ils appauvrissent leurs sujets? Et qu'ils ne se défendent pas, ces sujets, parce qu'ils ont besoin finalement de cette royauté qui les protège. Est-ce
Alors,
que c'est l'arroseur arrosé?
oui, si on veut, puis après on l'a vu même dans l'histoire, hein. un peuple qui est complètement opprimé, qui va au début avoir besoin de cette royauté qui les protège, et puis obviamente dire ben en fait non, c'est pas possible. On l'a vu avec la Révolution française, hein, tout bêtement, c'était ça. Hein. Une royauté toute puissante qui s'engraissait quand même gentiment sur le dos du peuple, et le peuple qui au bout d'un moment a dit mais il y en a marre. Et en fait finalement qui avait pas plus rien à perdre, mais quasiment plus rien à perdre, donc qui ont pris les armes. Donc ça c'est un peu le risque quand on oppresse des gens.
Oui. Hogan est aveuglé par la chasse, la vie de débauche, le chasseur professionnel qui vient évincer Ewin, le mari de Merin justement, qui lui est vraiment un pacifiste né. C'est une avancée, là, à ce moment-là du livre, pour le lecteur ou pas?
Oui, l'arrivée du louvetier. Alors, le louvetier, ça existait hein, au Moyen-Âge. Oui. Hein, le louvetier, ça existait. Leur travail, c'était de tuer des loups. Il y a pas, c'est écrit dans le terme. Et oui, disons que le louvetier vient nourrir la soif de sang de Hogan, hein, qui vraiment ne vit que par les chasses, ne vit que par les femmes aussi. Hein,
oui.
Bah oui, hein. Et oui, l'arrivée du louvetier, c'est ça qui va faire complètement percuter la situation et faire que la situation se détériore encore plus et va entraîner encore des catastrophes derrière.
La royauté d'Angelarad, de Grem, de Faedir, de Tulil sont des royaumes donc, qui sont très loin les uns des autres. Vous nous avez expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas s'entraider. Est-ce que ces royautés ont des villages à proximité ou est-ce que tout le monde est dans la cité?
Tout le monde est dans la cité. D'accord. Les villages à proximité ne sont plus possibles. C'est-à-dire
oui.
Ça a été possible pendant un temps, mais la forêt en fait grignote petit à petit les territoires comme nous grignotons aujourd'hui les territoires sur de la nature. Et là, pour survivre, je dirais, il faut être entouré de murailles.
Pourquoi vous ne les avez pas fait se consulter justement ensemble pour prendre de grandes décisions ensemble? Parce qu'à un moment, il y aurait pu y avoir un G1, 2, 3, 4, un G4.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est quand même des survivants. Ces cités-là, ce sont des survivants qui réussissent à peine à survivre.
Oui.
Donc face à ces cités qui sont vraiment dans des situations terribles. Le fait de se déplacer, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, dans Angelarad, il y a des seigneurs qui se retrouvent bloqués à Angelarad et qui ne peuvent pas repartir chez eux, mais parce qu'ils ont peur, hein, clairement. Ils ont eu la trouille de leur vie. Et en fait, les messages passent très, très difficilement entre les cités parce que soit ils n'arrivent jamais, soit une fois qu'ils sont arrivés, les gens ne veulent pas repartir parce qu'ils ont trop peur.
D'accord.
Donc forcément, dans ces conditions-là, les cités ne peuvent pas se relier entre elles et se lier entre elles pour décider d'un commun accord, d'une politique ou en tout cas de s'allier contre la forêt. C'est
oui.
Pas possible pour le moment, mais ça fait que 60 ans que cette situation
est. Et oui.
Dans les 60 autres prochaines années peut-être, mais...
Et oui. Pourquoi les fées ne peuvent pas intervenir et chasser les mauvais sujets? Ça aurait simplifié les choses pourtant.
Ah oui, parce que ce n'est pas leur rôle. Elles, c'est des émissaires. Elles ne doivent pas prendre parti.
Et oui.
Voilà. Et elles sont toutes seules, surtout. Elles ne sont pas nombreuses.
Et
quand
oui.
On regarde l'histoire,
Titania, il n'y en a qu'une
dans chaque royauté. Donc, et encore, Titania, en tout cas dans ce qu'elle sait, elle est toute seule. Elle ne peut pas. Elle n'est pas là pour rendre la justice. Elle est vraiment là. Son rôle, c'est pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que chacun se rappelle de ses obligations et de ses droits, sans outrepasser les règles. De peur qu'il y ait une guerre rangée.
Vous donnez l'impression que le végétal vit la vitesse grand V au point de perturber les missionnaires. Pourquoi vous faites pousser ces arbres aussi vite?
Alors, c'est pas moi, c'est les anciens dieux. En fait...
C'est vous qui tenez la plume.
Oui, c'est moi qui tiens la plume. Mais j'ai donné quand même à ces anciens dieux ce pouvoir, en effet, de faire grandir la forêt aussi vite qu'ils le veulent. En effet, au bout d'un moment, ils vont même s'amuser à perdre une partie des mercenaires en faisant changer la forêt. Mais ça fait partie des pouvoirs de ces anciens dieux qui redéfinissent et resculptent la forêt comme ils le souhaitent.
Oui. Quand on lit le livre, on se dit, mais Hélène adore ces animaux qu'elle crée. Pourtant, ils sont féroces. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Il y en a certains que j'aime bien, puis d'autres, bon, j'aimerais pas les croiser dans une balade, quand même.
Oui, il faut les créer pour le bien du livre.
Voilà, c'est ça, il fallait créer, enfin, c'est ces grands monstres, hein, ces grands animaux. Je me suis inspirée des animaux qu'on trouve dans Princesse Mononoké. C'est un film d'animation d'Hayao Miyazaki, où les dieux sont représentés sous forme d'animaux gigantesques. Et j'avoue, là, je me suis inspirée de ce qu'il a fait, parce que je trouvais que l'idée était vraiment super.
Et les animaux qu'on retrouve dans les émissaires sont, certains sont gigantesques, certains sont normaux, et certains sont gigantesques parce que ce sont les gardiens, en fait, mm-hmm. de cette forêt.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la bête de Gévaudan aussi ?
Un petit peu, mais la bête de Gévaudan, dans mes souvenirs de la légende, était une ruse machiavélique. Mais il y a cette idée, même au Moyen-Âge, hein, tout était, comme beaucoup de choses étaient inconnues, on faisait des choses extraordinaires. Donc il y a aussi cette idée-là, bien sûr.
D'accord. Ce que je trouve intéressant dans le choc de ces mondes, je pense que c'est voulu de votre part, ou est-ce qu'alors ça s'est vraiment imposé à l'écriture ? Est-ce que vous y avez d'abord pensé pour mûrir cette écriture ? Ou est-ce qu'à mesure que vous avez écrit, vous avez dit, ah ben non, mais là, il me faut un choc ?
Alors non, ça s'était pensé dès le début. C'est-à-dire que vraiment sur ce roman-là, je voulais y mettre pas mal de choses sur le déséquilibre et sur des choses que je pensais. Et du coup, ce choc, je voulais qu'il soit le plus évident possible, donc assez, assez violent dans ce cas-là. Et oui, ça, j'avais réfléchi depuis le début.
D'accord. En tout cas, vous avez réussi, parce qu'il y a des fois, on a peur. Hein. Pensez-vous qu'il serait possible de vivre, bien qu'on en ait parlé plus tôt aussi dans l'émission, sans que l'humain ne touche aux autres mondes et vice-versa ? Est-ce que ça serait possible ?
Je ne pense pas. Je pense que de toute manière, hein, quoi qu'il, peu importe l'époque, hein, on a toujours touché à au monde qu'il y avait autour de nous, à l'atmosphère et puis au monde qu'il y avait autour. Après, je pense qu'on peut le faire en étant un peu plus respectueux.
Mmh. Voilà. Ce monde, vous l'avez situé vers le Moyen-Âge, vous nous l'avez déjà dit. Est-ce que la nature devait y régner un petit peu comme vous le faites là ou pas ?
À régner un peu plus, ça c'est sûr, puisqu'on n'avait pas toute la technologie. C'est la technologie, les machines, c'est très bien.
Attention, l'évolution humaine.
L'évolution humaine, hein, c'est l'évolution qui a fait qu'on a grignoté petit à petit sur les territoires. Il faut savoir quand même qu'au Moyen-Âge, hein, ils n'étaient pas plus respectueux que nous. Hein. Mm-hmm. Il y a quand même au Moyen-Âge, il y a eu des déforestations assez importantes, hein, même très importantes au Moyen-Âge, puisqu'il fallait se chauffer, il fallait bâtir les maisons, tout était en bois, donc on déforestait sans problème, mais on déforestait avec une hache. Donc forcément, on déforestait beaucoup moins vite. Aujourd'hui, on a des bulldozers. Aujourd'hui, on a une technologie qui fait que vraiment, quand on détruit très fortement et on détruit beaucoup quand même.
Oui, en effet. Est-ce que la fin vous a paru évidente ou est-ce qu'on ne va pas dire ce qu'est la fin de ce livre, on ne va pas en parler, mais est-ce que le monde aurait été plus sympa vivre sans les rois, mauvais ou pas d'ailleurs ? Est-ce que les gens auraient pu vivre plus harmonieusement s'il n'y avait pas eu tous ces rois qui, après tout, veulent le pouvoir et veulent la richesse ?
Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Après, je pense que, hélas, là, j'ai mis des représentations, hein, des rois un petit peu tyranniques, mais je pense que d'autres auraient peut-être pris leur place ou d'autres, en tout cas, n'auraient pas été d'accord avec... Parce que, ben, on le voit aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Vous avez des gens qui vont être, en effet, beaucoup plus souples et qui vont dire, ah ben oui, il faut peut-être faire les choses différemment. Puis d'autres qui vont dire, non, non, on continue comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. Donc je pense que sans les rois, il y aurait eu des résistances. Après la fin, je l'ai écrit quasiment au début. Quasiment l'une des premières scènes qui m'est venue, c'était la scène finale.
D'accord. Que vous a dit le public qui a lu déjà ce livre ?
Il a été très très bien accueilli, ce qui a fait vraiment très plaisir. Ça m'a fait sourire beaucoup. Surtout sur il y a des passages que des gens ont beaucoup aimé, alors que moi, ce n'est pas forcément mes préférés, c'est rigolo, comme quoi on n'a vraiment pas la même perception entre auteur et lecteur. Pour le moment, en tout cas, vraiment, les critiques sont plutôt positives. Après, c'est toujours subjectif, hein, ce sont des goûts de lecteur, hein, voilà. Mais en tout cas, oui, ça se passe plutôt bien et oui, c'est très chouette. J'ai eu des très bons retours et des conversations très rigolotes avec beaucoup de lecteurs qui adorent tous Puck. Hein. Puck reste le personnage... aimé le plus des lecteurs, je crois.
Oui, mais c'est un petit peu normal aussi.
Voilà.
En tout cas, moi, pour ma part, je vous remercie que vous m'ayez confié cette lecture. Une lecture que je n'aurais peut-être pas lue de moi-même comme ça. Mais là, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai souri, j'ai ri. J'ai beaucoup réfléchi aussi parce qu'il y a de la vérité dedans. Il y a des leçons de morale quelque part aussi. C'est une autre vision du monde que vous nous présentez, même si tous les mondes ne seront jamais idéaux comme on le voudrait. Mais ça fait réfléchir, ça fait, quand on sort devant notre porte, on se dit « Ah, mais attends !» Voilà. Comment est-ce que vous avez écrit ce mot « fin », même si vous ne l'avez pas écrit ?
C'est difficile d'écrire le mot « fin »,
oui,
parce qu'on dit au revoir finalement à,
oui,
à tout ce qu'on a créé. On n'y reviendra pas,
mm-hmm,
vu que c'est qu'un seul tome, hein, il n'y a pas de tome 2,
oui,
c'est ce qu'on appelle un « one-shot ». Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile, on a quasiment même la larme à l'œil quand on s'en va, parce qu'on dit « bon ben, ça y est, j'ai fini, j'ai tout fait ». Et je crois que vraiment, le mot fin, le premier mot fin n'a pas été difficile à noter. C'est à la fin des corrections avec mon éditeur, quand vraiment on avait tout mis dans ce texte, qu'on avait tout terminé et que je lui ai envoyé les dernières corrections, mais ça y est, là c'est vraiment fini. Là, c'est, je quitte,
oui,
ces personnages pour en créer d'autres, bien sûr, et pour partir dans d'autres histoires. Mais cette histoire-là et ces personnages-là, je ne les retrouverai plus comme ils m'ont,
oui,
accompagné pendant 2 ans.
Oui. Et ils ne vous manquent pas, des fois. Et des fois, ils ne reviennent pas vous dire « tu aurais pu faire ça ».
Alors, de temps en temps, ils me disent « tu pourrais », ou alors d'autres personnages qui me disent « tu pourrais écrire mon histoire aussi ». Mais je les laisse parler parce que ce n'était pas du tout dans l'optique. Disons qu'il y a d'autres personnages et d'autres histoires qui se sont développées entre-temps.
Est-ce que vous avez un autre livre en cours d'écriture ?
Oui.
On peut en soulever la page de garde ou pas ?
Là, je suis en train de travailler sur une duologie, c'est-à-dire un roman en 2 tomes. Donc, le premier tome, je le sais, est entre les mains de mon éditrice, puisque chez Inception Édition, il y a donc 2 éditeurs. Il y a Ophélie Pourrias et Guillaume Lemousse de La Fosse. Le roman est en ce moment entre les mains expertes d'Ophélie, qui est en train de voir si c'est publiable, on va dire ça comme ça.
Oui, oui.
Et là, je suis en train de travailler sur le 2e tome. Donc, sur cette histoire-là, on change de lieu, on part au Japon.
D'accord.
Voilà, on part au Japon, on est à l'ère Edo, c'est-à-dire l'ère des samouraïs. Et on va suivre une jeune fille, une toute jeune fille, hein, qui a 16 ans, qui souffre de surdité. Donc, elle est sourde. Par contre, elle voit et elle entend les esprits des défunts.
D'accord, un autre monde.
Un autre monde, totalement.
Tout à fait. Bon, bien, Hélène, je vous remercie de nous avoir fait un univers pas si différent du nôtre, finalement, parce que quand on lit votre livre et qu'on réfléchit, finalement, oui, on est dans notre monde. Quelque part, ça peut intéresser quand même et interpeller aussi les lecteurs et je les invite à lire ce livre justement pour être interpellés. Parce que souvent, quand on entend des conversations, qu'elles soient de hauts personnages ou qu'elles soient de simples habitants de ville, c'est vrai que ça me révolte et j'ai envie de leur crier, mais votre point de vue, si vous le voyez de la campagne, peut-être que vous ne verriez pas le bio sous le même angle.
C'est ça.
J'ai envie de crier haut et fort. Merci de votre confiance, en tout cas, et merci d'avoir répondu à cette page après page. Qu'est-ce que nous allons écouter maintenant pour nous quitter ?
J'ai choisi un morceau de compositeur que beaucoup d'auteurs de l'imaginaire apprécient. S'ils m'entendent, ils vont reconnaître, qui est Two Steps from Hell, qui sont donc des compositeurs, il n'y a pas de chant, hein, il n'y a pas de voix, mais qui aussi nous accompagnent beaucoup, nous auteurs de l'imaginaire, sur nos écrits, puisque ce sont des musiques qu'on appelle épiques, c'est-à-dire pour les scènes d'action, et que j'aime beaucoup.
Mm-hmm. Voilà. En tout cas, moi, merci beaucoup, Hélène,
merci
pour cette belle lecture, et je vous laisse le mot de la fin.
Ben, je voulais vous remercier également Radio Galaxie pour m'avoir accueilli ce matin. C'était ma première radio, c'était très très chouette. Je remercie également les lecteurs, hein, qui se sont plongés dans les émissaires du lien. Si je découvre de nouveaux lecteurs, n'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou. Je suis sur Instagram, hein, Hélène Bess auteur, pour venir me donner vos impressions. Ça sera avec plaisir. Et évidemment, j'en profite pour remercier mes éditeurs, hein, qui ont permis, Ophélie et Guillaume, qui ont permis ce roman d'être aujourd'hui entre vos mains.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.